Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, Stop Covid, beaucoup de bruit, pourquoi ? Une semaine maintenant que l'application Stop Covid a été lancée dans le but d'aider à freiner la propagation de l'épidémie dans notre pays. Cependant, dès le mois d'avril, bien des voix se sont élevées pour critiquer cette application, voire même qu'elle soit mise en place, et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur nos libertés publiques. Un débat qui n'a pas empêché, selon le secrétariat d'État au numérique, à 1 million de Françaises et de Français de se connecter, un chiffre assez éloigné des projections de départ, mais peut-être cette application sert-elle également de banc d'essai pour des usages que nous pourrions connaître plus tard. Est-elle intrusive, cette application Stop Covid? Et si elle ne l'est pas, pourrait-elle le devenir? Ce sont quelques-unes des questions que nous poserons à nos 4 invités. Laure de la Raudière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Agir de l'Eure-et-Loire, vous êtes spécialiste des questions numériques, vous avez été membre du Conseil national du numérique. Avec nous, Gilles Babinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur, vice-président de ce même Conseil national du numérique et conseiller également à l'Institut Montaigne. Avec nous, Jean-Baptiste Souffron et décidément bien des gens du Conseil national du numérique puisque vous avez été secrétaire général de ce Conseil national du numérique et vous êtes avocat du cabinet FWPA. Et puis également, bonsoir. Véronique Cortier, vous êtes spécialiste des protocoles de sécurité informatique, directrice de recherche au CNRS, au labo de recherche en informatique et ses applications, le LORIA, qui se situe à Nancy. Je vais commencer avec vous, Laure de la Raudière. Merci d'être avec nous, Madame la députée. Vous êtes habituellement considérée comme quelqu'un qui est très à cheval sur la question de la protection des données numériques en particulier et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur nos vies quotidiennes. Et vous êtes favorable à cette application Stop Covid. On a été un peu surpris de vous voir vous lancer justement dans la défense de cette application qui, et on le verra avec les autres intervenants de cette discussion, est apparue à certains comme étant quelque chose de dangereux pour nos libertés individuelles.
Mais d'abord, je vous remercie de me présenter comme étant une députée en pointe sur la défense des libertés individuelles à l'ère du numérique. Personne ne peut me faire le reproche de laxisme en la matière et j'ai pas changé de point de vue. C'est-à-dire que si aujourd'hui le gouvernement représentait la loi sur le renseignement qui avait été présentée dans le mandat précédent par le gouvernement socialiste, j'aurais dit la même chose que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire que c'était des outils de surveillance excessifs qui étaient mis dans la loi. Maintenant, là, on est dans un schéma complètement différent. Les garanties offertes par le gouvernement sont nombreuses. La première garantie, c'est celle de la liberté, c'est-à-dire que vous avez le choix ou non de l'utiliser. Vous n'êtes pas passif, c'est-à-dire vous décidez ou non de télécharger cette application. C'est déjà un fondement même de la liberté, c'est d'avoir la liberté de choix. La deuxième chose, c'est qu'il y a des garanties en matière de respect de la vie privée avec, d'abord, il n'y a pas de géolocalisation, puisque ça utilise la technologie de Bluetooth. Donc ça n'a strictement rien à voir avec les outils de surveillance utilisés en Chine et Corée, parce qu'on a aussi entendu beaucoup de collègues qui ont dit que c'était un outil de surveillance. Moi, je vraiment pas un outil de surveillance. En plus, il y a de la pseudonymisation avec un serveur qui délivre plusieurs pseudonymes par personne et une destruction régulière des données recueillies, l'application étant limitée dans la durée. Et ça, c'est inscrit dans la loi parce que c'est lié, en fait, au système d'information qui a été mis en place pour pouvoir lutter contre la propagation du virus et donc casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination du virus. Il y a eu des engagements aussi de sécurité qui ont été apportés parce que l'ANSSI a été mis dans la boucle dès le début afin que l'application soit...
L'ANSSI, c'est l'organisme de cybersécurité, justement.
L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Et ils ont eu une exigence impressionnante vis-à-vis de l'INRIA pour assurer la sécurité, d'ailleurs. Et l'autre aspect en matière de
l'INRIA,
sécurité...
L'INRIA, c'est donc l'organisme qui chapeaute l'ensemble de la mise en œuvre, justement, de cette application Stop Covid.
C'est l'organisme de recherche en informatique appliquée. Et j'ai aussi trouvé très positif que le gouvernement mette en place un challenge by bounty, c'est-à-dire demander 250 hackers politiques de venir voir s'il y a des failles de sécurité. Et ça s'est passé avant le lancement officiel de l'application. Les failles qu'ils ont trouvées sont des failles mineures, donc qui ont fait l'objet de mises à jour. Mais je dirais que comme on a tous les jours des mises à jour sur les applications qu'on utilise sur nos téléphones. Voilà. Et dernière chose extrêmement positive aussi que j'ai trouvé, qui était une première, c'est la volonté de transparence, en fait, du gouvernement avec la publication du code source et un comité de suivi et de contrôle. Donc, moi, j'ai l'impression...
Brièvement, je vais donner la parole aux autres invités, excusez-moi.
Oui, le premier élément essentiel, c'est que c'est sur la base du volontariat. Donc, moi qui suis une libérale, si vous voulez, je trouve que chacun est responsable de savoir ce qu'il fait par rapport à ces outils. Et c'est d'ailleurs le cas avec les applications qu'on utilise tous les jours sur notre iPhone ou sur les téléphones équivalents.
Jean-Baptiste Souffron, je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet FWPA. Les auditeurs de France Culture se souviendront de votre présence sur l'antenne, c'était il y a quelques années, dans Minuit 10 de France Culture avec Laurent Goumin en particulier. Et vous êtes ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Vous avez un avis dont on peut dire qu'il est à peu près perpendiculaire à celui que vient de développer Laure de La Raudière.
Oui, tout à fait. Et c'est pas une, si vous voulez, le souci, c'est qu'on est face à une application dont a été dénoncé dès le départ un manque d'efficacité. Les gens se sont dit tout de suite que ça ne marcherait pas, pour tout un tas de raisons, en raison des délais, en raison des éléments technologiques qui font que c'est compliqué à faire marcher. Et donc, ce qui gênait, c'était pas tellement que ça soit pas efficace, mais c'était que du coup, on sentait derrière cette application une démarche idéologique.
Et une laquelle
volonté, en réalité, une démarche idéologique de contrôle et de restriction des libertés et surtout de culpabilisation des individus.
Vous avez culpabilisation des individus avoir... parce que vous pensiez, avant même que l'application ne soit lancée, Jean-Baptiste Souffron avec d'autres, et vous l'avez écrit avec Antonio Casilli ou d'autres, vous pensiez qu'en fait, ce qu'il y avait derrière tout ça, c'était une sorte de façon pour l'État de se déresponsabiliser en disant que, eh bien, si on ne téléchargeait pas ce type d'application, il y avait des risques que l'épidémie continue. Ça n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, personne n'accuse qui que ce soit de ne pas avoir téléchargé cette application.
Certainement, mais c'est aussi parce que l'épidémie est justement en train de s'arrêter grâce au travail des soignants et grâce à l'arrivée de masques, de tests, et finalement grâce à tout un tas de choses qui ont toutes pour point commun de n'avoir aucun rapport avec cette application. C'est quand même important, c'est-à-dire qu'on a aussi l'impression qu'il y a eu pendant un moment, cette application a peut-être aussi servi à faciliter un petit peu la communication en mettant sur la table un sujet qui a suscité du débat, qui a créé... qui a créé une polémique, en évitant peut-être du coup de parler d'autres sujets qui étaient plus délicats, plus difficiles, sujets dont d'ailleurs j'apprends aujourd'hui qu'il y a une instruction pénale qui est ouverte, notamment sur la question des masques. Maintenant, si vous voulez, on arrive avec cette application, donc l'idée qu'il faudrait que chaque Français se mette à surveiller ce qu'il fait, puisse ensuite être prévenu de ce que font les autres. Après un premier débat il y a 6 mois sur la question de la reconnaissance faciale, en même temps que la loi Avia, tout ça dessine un paysage et
la loi Avia sur le harcèlement sur Internet, il faut préciser.
Voilà. Et tout ça dessine un paysage qui est pas particulièrement favorable aux libertés et surtout pas aux libertés individuelles. On avait deux attitudes à avoir dans le débat face au Covid. C'était d'une part soit de faire confiance aux individus, de leur indiquer ce qu'il faut faire. Et là-dessus, les Français ont répondu plus que présent. Ils ont fait des efforts terribles. Ils sont restés chez eux, économiquement, socialement, humainement, ça a été extrêmement lourd. Ou bien, à l'inverse, on peut avoir une attitude qui est un peu technocratique, un peu dirigiste, c'est de leur dire, écoutez, vous savez quoi, en fait, puisque vous êtes des petits-enfants, on va mettre en place un mécanisme qui va permettre de vous contrôler. Et c'était ce qui a été ressenti. Le tout, bien sûr, avec cette inquiétude que s'il s'agit d'une démarche idéologique, puisque rien ne permet de justifier son efficacité, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui garantit que demain, cette application ne va pas... Le principe de cette application, si vous voulez, on s'y oppose sur son principe.
Oui, Gilles Babinet...
Demain, ce principe ne va pas être dévoyé dans tout un tas d'autres sujets qui n'ont pas ni l'urgence, ni l'importance sanitaire que peut avoir le Covid. Imaginez tout simplement qu'on demande de mettre une application similaire pour vérifier, par exemple, que les chômeurs ne vont pas au cinéma. J'ai envie de vous dire, et pourquoi pas.
Ouais, Gilles Babinet, vous pensez que tout cela, c'est un peu exagéré. En tout cas, vous connaissez très bien Jean-Baptiste Souffron, vous êtes vous-même vice-président du Conseil national du numérique, et vous imaginez que on a peut-être... un peu exagéré du côté des opposants à Stop Covid, la dangerosité de cette application et sur nos libertés publiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avant que je donne la parole à la quatrième invitée, Véronique Cortier?
Oui, écoutez, j'avoue que les arguments que je viens d'entendre en défaveur de cette application me laissent un peu pantois. J'y entends, pour ainsi dire, un procès politique, c'est-à-dire que on prend une succession d'actes différents pour finalement dénoncer cette application. Je rappelle deux choses à mon avis. La première, c'est que les épidémiologues sont à peu près unanimes pour reconnaître l'efficacité, même à des faibles taux d'usage. Il y a encore eu un papier dans la revue du MIT ce matin qui est paru à cet égard. De ce que l'on appelle le backtracking, qui est la base de cette application.
Alors, il faut expliquer que le faible taux d'usage, il faut expliquer, Gilles Babinet, c'est que effectivement 1 million de personnes qui l'ont téléchargé, qui l'ont mis en application sur leur téléphone portable, beaucoup disaient il faut arriver à 60% de la population pour que ça soit utile de pouvoir justement dépister les cas. On est bien en dessous de 60%. C'est même ce faible taux d'usage, vous pensez que c'est utile?
Oui, le chiffre de 60% est paru pour la première fois dans un quotidien britannique qu'il a récusé par la suite. Et aujourd'hui, encore une fois, lorsque vous discutez avec des épidémiologues, ils vous disent c'est nécessaire. Deuxième chose, c'est je crois qu'aujourd'hui, pour ainsi dire, tous les grands pays lancent ce type d'application.
Et donc, il faudrait... Certains l'ont refusé tout de même. Certains l'ont refusé tout de même. Il y a quelques pays qui, pour l'instant, ont...
Il y a quelques exceptions, mais qui sont quand même minoritaires.
Voilà.
Les États américains ont eu un débat pas plus tard que cette semaine. Elle va être lancée avec des spécifications techniques un peu différentes, mais de façon assez massive. Et je pense que, enfin, la chose qui a bien rappelé lors de la Raudière, c'est le fait que on voit pas très bien en quoi il pourrait y avoir le moindre risque sur les libertés publiques. D'abord parce que, et avant tout, je pense, par la loi, on a donné des garanties extrêmement claires là-dessus. Donc évidemment, on peut imaginer que des services secrets ou je ne sais quoi se mettent, je dirais, en travers de la loi. C'est potentiellement possible. C'est arrivé par le passé, mais c'est quand même quelque chose qui est politiquement extrêmement risqué, qui est pas du tout dans l'esprit de tout ce qu'on a entendu. Le code a été publié.
Enfin, si vous voulez, il n'est pas totalement publié,
moi, je
crois.
Non, sur la partie serveur, effectivement.
Ah oui. Donc c'est une demande de la CNIL, je crois, justement que le code soit entièrement publié.
Oui, c'est aussi ma demande d'ailleurs, mais je pense que ça sera fait. Et de toute façon, dans la mesure où c'est encrypté à partir du téléphone, je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire, même sur la partie serveur, pour réussir à suivre les gens. Et puis, si vous voulez, pensez bien à la finalité de tout ça. Imaginons même que vous ayez des méchants services de police qui cherchent à identifier les gens. Qu'est-ce que vous allez faire du fait de savoir que les gens sont potentiellement malades? Vous allez venir les chercher chez eux? Enfin, si vous voulez, il y a un moment où je pense qu'il faut revenir sur Terre et sortir de cette espèce de fantasmagorie qui, finalement, à mon sens, a une nature extrêmement politique. Moi, j'ai pas un positionnement politique par rapport à cette application. Je suis pas là pour soutenir le gouvernement. Bien au contraire, Le Conseil national du numérique doit se positionner en tant que instance indépendante et pourquoi pas contre-pouvoir dans certains cas. Mais je vous avoue que la position des uns et des autres m'a vraiment extrêmement surpris. Il fallait bien peser les risques et les avantages. Et le risque, c'est tout simplement de tomber malade et de potentiellement très malade.
Je donne la parole à Véronique Cortier, qui est la dernière intervenante à ce débat, qui n'a pas encore pris la parole. Je rappelle que vous êtes spécialiste des protocoles de sécurité informatique. Vous travaillez au laboratoire Lauria à Nancy. Vous avez, avec d'autres spécialistes justement d'informatique, publié un texte, un document qui s'appelle « Risque traçage ». Et vous insistez peut-être moins que Jean-Baptiste Souffron sur les questions, disons, d'éthique qui sont derrière cette affaire, mais vous insistez aussi sur peut-être l'inutilité et le fait que cette application n'aurait pas été pensée, développée correctement, et qu'au bout du compte, comme pour un vaccin, par exemple, Véronique Cortier, on doit prendre du temps pour pouvoir développer une application, pour qu'elle soit convenable et qu'elle soit de bonne qualité. Et vous avez l'impression, vous, que ça n'a pas été fait dans le cas présent avec Stop Covid.
Alors effectivement, quand on développe une application, enfin finalement c'est la même méthodologie que pour développer un vaccin. On aimerait que ça aille très vite, mais il y a différentes étapes. Donc ici, il y a une équipe à l'INRIA qui a proposé un système, et on a besoin d'évaluer si ce système est correct ou pas. Et là, ici, il y a tout qui a été fait en même temps. C'est-à-dire, le système a été proposé, en même temps le code est fait, et en fait le code a évolué, ne correspond déjà plus au système qui a été proposé. Le code n'est pas entièrement en ligne, effectivement, bah, comme ça vient d'être dit, parce que ça prend du temps de bien faire les choses et de pouvoir les montrer avant sinon on risque de montrer des failles évidentes, puisque le système est déjà déployé. Donc, montrer des failles évidentes serait dangereux. Et il y a d'autres points techniques qui sont aussi encore en cours de développement, comme l'évaluation des distances à l'aide du Bluetooth. Mmh. Et donc, ici, on a, je dirais, il n'y a aucun point pris séparément qui est mal fait. Mais on veut tout faire en même temps, et du coup on n'en est pas capable en fait de faire si vite une application résolvant tous les points.
Est-ce que ça serait parce qu'au bout du compte on se dit on développe quelque chose, quelle que soit son efficacité, même si son efficacité n'est pas totale, parce que ça permettra pour peut-être plus tard d'imaginer comment on peut développer une sorte d'application différente, mais fondée sur l'expérience de ce qui a été fait.
Alors, on peut se demander, enfin, je pense que réfléchir à comment faire une application dans ce contexte qui soit, dont on évaluerait les risques et les bénéfices, c'est-à-dire, je pense qu'il y a des risques qui peuvent être acceptables à condition qu'il y ait des bénéfices. Vous parliez tout à l'heure de l'efficacité à démontrer de cette application. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire, pour répondre à votre question, il n'est pas nécessaire de la déployer et de l'installer et d'avoir déjà un serveur qui potentiellement a accès à des informations comme qui est malade, mais aussi qui contamine qui. Il n'est pas nécessaire de déployer cette application pour savoir évaluer, par exemple, ce que c'est faire ce qu'on sait détecter en Bluetooth ou sécuriser l'application. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans la déployer de façon effective.
Et vous pensez donc que c'est précoce que de l'avoir déployée aussi vite?
Ben, je pense qu'à l'heure actuelle, on sait déjà identifier un certain nombre de risques en matière de vie privée. Donc le serveur a accès à un certain nombre d'informations. Des gens motivés à l'aide de plusieurs téléphones peuvent également savoir si quelqu'un est contaminé ou pas. Au-delà de la vie privée, il y a aussi la possibilité de lancer des fausses alertes, de façon malveillante, bien entendu. Alors que les bénéfices, donc Monsieur Souffron mentionnait... Monsieur Babinet mentionnait que les épidémiologistes sont tous d'accord pour dire que ce serait utile. Ceci dit, les études souvent comparent uniquement l'utilisation d'une application à ne rien faire du tout. Or, ce qui reste à évaluer, c'est vraiment l'efficacité de cette application en complément d'un traçage manuel qui est mis en place à l'heure actuelle en France. Donc, quel est l'intérêt de cette application en plus? Ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas évalué.
Lors de la Rodière, vous vouliez intervenir en tant que défenseur au féminin, défenseureux, comme on dit pour professeureux, de cette application, en disant qu'au bout du compte, c'est aussi une façon de faire de la pédagogie sur le numérique auprès de nos concitoyens et de nos concitoyennes.
Ça c'est anecdotique par rapport au fait que l'application a jamais été présentée par le gouvernement comme une application de solutionnisme technologique.
Alors il faut peut-être dire effectivement qu'elle était critiquée comme telle.
C'est pas la solution, c'est pas l'alpha et l'oméga, et le gouvernement ne l'a jamais présentée comme ça, et moi je défends vraiment pas cette vision-là. On a mis en place un protocole sanitaire de lutte contre la propagation du virus. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur la propagation du virus. Beaucoup d'épidémiologues disent que on risque d'avoir un été tranquille et puis une nouvelle vague en septembre-octobre. Et s'il y a une nouvelle vague, ça va être un outil très utile, complémentaire aux brigades sanitaires évoquées juste précédemment. Ces brigades, il se trouve que moi j'ai été, je le dis, j'ai été cas contact. Donc j'ai été identifiée par une personne contaminée qui.
Et vous l'avez su par la brigade ou vous l'avez su par
Qui a fait l'objet d'une enquête sanitaire en fait. Et extrêmement, l'enquête sanitaire, c'est quand même extrêmement inquisiteur. On parlait de vie privée, de liberté individuelle et tout ça. On oublie ce qui est fait manuellement aujourd'hui en matière de vie privée, mais qui est absolument nécessaire pour lutter contre la propagation du virus.
Vous voulez dire que quelqu'un...
Vous êtes contacté par la CPAM et on vous pose des tas de questions. On vous dit que vous avez rencontré telle personne, il faut vous tester, voilà. Donc, si jamais il y a une... aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle vague, donc on arrive à circonscrire la propagation du virus, les clusters de propagation du virus. Mais demain, s'il y a une nouvelle vague, il va bien falloir aider ces brigades sanitaires pour identifier les cas contacts.
Et Stop Covid peut-être
aussi. Les transports en commun, les restaurants, tout ça, Stop Covid peut être utile. Et c'est utile, mais même s'il n'y a que 5 à 10% des Français qui le téléchargent, les études montrent que c'est utile en complément, en fait, des brigades sanitaires mises en place. Donc voilà, comme il n'y a pas de difficulté, ça a été rappelé par Gilles Babinet sur les libertés, parce que on a eu des garanties vraiment que moi j'ai jamais vues à l'ère du numérique dans nos débats, et ça a rien à voir avec les débats sur la loi sur le renseignement, sur la loi sur la lutte contre la haine en ligne. Il faut vraiment pas faire d'amalgame, et c'est uniquement dans ce cadre-là que c'est possible d'utiliser l'application Stop Covid. Et ça nous protège s'il y a une nouvelle vague.
Jean-Baptiste Souffron et Gilles Babinet, de façon très rapide, si vous voulez, avant que nous fassions une petite pause. Jean-Baptiste Souffron.
Oui, non, mais je pense que la question n'est absolument pas technique. Hein. Il faut bien comprendre, il ne s'agit pas d'être opposé à la technologie ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a d'autres types d'applications qui fonctionnent correctement et qui posent absolument aucune difficulté, surtout quand ils sont basés sur une démarche volontaire. Mais là, si vous voulez, on est vraiment face à une question de principe. Je constate d'ailleurs que dans la plupart des autres pays, notamment au Royaume-Uni, si une application est développée, elle est testée. C'est-à-dire qu'elle a été mise en place sur une île,
l'île de White.
Et maintenant, elle est testée à Londres dans un emplacement qui est secret. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est une application dont les possibilités qu'elle laisse entrevoir peuvent apporter de lourds changements sociaux. Enfin, je veux bien qu'aujourd'hui, on nous fasse passer l'idée qu'en raison de la pandémie, en raison du choc, il y a urgence. Mais d'abord, cette urgence, elle n'est absolument pas manifeste, puisque de toute façon, cette application n'a servi à rien jusqu'à aujourd'hui. Et je suis prêt à demander, ça fait une semaine qu'elle est installée, combien de personnes a-t-elle aidé aujourd'hui ? Réponse, zéro.
Gilles Babinet.
Il s'agit donc d'une démarche idéologique pour pousser l'idée d'une société de surveillance.
Gilles Babinet.
Nous sommes tous, je pense, d'accord pour empêcher. Il ne s'agit pas d'un détournement qui pourrait avoir lieu plus tard. Je ne suis pas inquiet des services secrets français ou des choses comme ça. Je sais que les garanties sont là pour le gouvernement. Ce n'est pas la question. Et d'ailleurs, je fais plutôt confiance à mon gouvernement sur ce point-là. Mais je pense qu'on est face à un changement de société qui commence là. Et ça, c'est très dangereux.
Gilles Babinet, vous qui, en tant qu'entrepreneur, vous êtes a priori, vous auriez pu être, comme Laure de la Rodière, du côté du camp des anti-tracking, et pourtant vous êtes de ce côté-là.
Il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais bien aimé répondre. Mais si vous voulez, d'abord je note que Maître Souffron n'est pas opposé sur le fond à l'application, puisqu'il parle des processus de mise en œuvre qu'il critique. Donc est-ce qu'il faut comprendre que dans certains cas, ils considèrent qu'on aurait pu la mettre en œuvre de façon intéressante. Si vous voulez, si je devais faire un point, et je crois que c'est probablement le point de fond, c'est il faut, je crois, définir si on pense que la technologie est au-dessus de la démocratie ou en dessous. Moi, je pense que la technologie est en dessous de la démocratie et que c'est à nous de créer les institutions pour éviter qu'elles martyrisent les gens. Et que si on n'est pas capable de faire ça, effectivement, ça va mal tourner, ça tournera mécaniquement mal. Mais que de l'autre côté, le risque qu'on a de ne pas le faire, de pas créer ces institutions, c'est de se faire dominer par des pouvoirs économiques étrangers.
Mais vous êtes, vous êtes.
Et donc c'est.
Vous êtes assez admiratif des États qui se sont numérisés à grande ampleur, par exemple les États scandinaves, et la Suède, qui fait partie de ces États, a refusé ce type d'application. Alors effectivement, ils ont aussi une autre position sur la question de l'épidémie de coronavirus.
Alors la Suède a effectivement refusé cette application, mais vous avez bien vu qu'ils ont pris une trajectoire totalement original, qu'ils payent aujourd'hui extrêmement cher. Et je n'ai pas l'historique de la raison pour laquelle ils l'ont refusé. Si vous voulez, moi je vous parlais d'un point qui me semble être plus profond, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir finalement un État qui rentre dans le 21e siècle, qui utilise le potentiel de ces technologies, qui ne se fasse pas dévoyer par les GAFAM, pour ne pas les citer. Et on est face à ce qui a été probablement le cas dans les États du passé, c'est-à-dire au changement du 19e au 20e siècle, l'avènement de l'électricité, et on est en train de dire mais il faut pas utiliser ça parce que c'est potentiellement extrêmement dangereux. Moi, je pense que oui, il y a des dangers qui sont inhérents, il y a des risques d'implémentation que Madame Cortier vient d'évoquer. Et que on apprend que rien n'est parfait, mais que si vous voulez, dans le cas présent, à mon avis, il y a nettement plus d'avantages que de risques. Et les risques, c'est quand même que les gens meurent, ni plus ni moins. Il faut quand même le rappeler, ça me semble nécessaire dans ce contexte.
Des risques qui sont quand même de moins en moins évidents aujourd'hui, en tous les cas. C'était le cas encore il y a 3 semaines ou il y a 1 mois.
Exactement. Mais comme Madame la députée vient de le dire, si on a un retour d'épidémie en octobre. Eh bien, on aura, et ça fait le point de Maître Souffron, on aura eu 4 à 5 mois d'expérimentation. Ça fait exactement le point de Madame Cortier. On aura une meilleure implémentation technologique.
On ne vous entend plus, Monsieur Babinet. On va en profiter pour faire une petite pause en écoutant un titre de Neil Gallagher, Come On Outside, qui vient tout juste de sortir.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Écoutez le temps du débat avec 4 invités qui débattent de la question Stop Covid, cette application qui est installée depuis maintenant 1 semaine, téléchargeable depuis 1 semaine. Beaucoup de bruit, pourquoi, c'est le titre de notre émission, avec Laure de la Rodière qui est députée Agir de l'Eure-et-Loir et coprésidente du groupe de travail cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale, avec Gilles Babinet qui est entrepreneur et vice-président du Conseil national du numérique, avec Jean-Baptiste Souffron qui est avocat et opposé à cette application telle qu'elle s'est mise en place dans nos téléphone depuis quelque temps. Et avec Véronique Cortier, je vous donne la parole. Véronique Cortier, une des questions que l'on peut se poser, c'est justement ce temps que vous estimez nécessaire, vous, pour développer ce genre d'application. Est-ce que, comme le disait à l'instant même Gilles Babinet, ben voilà, dans 3 ou 4 mois, on aura le recul nécessaire pour avoir fait une belle application qui ne soit pas dans les mains des GAFAM, comme on dit, c'est-à-dire des grandes sociétés américaines, justement, qui gèrent ce type d'application?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question.
C'est souvent le cas, je vous rassure.
et la question du lien avec les GAFAM. Donc, le lien avec les GAFAM, à vrai dire, quelle que soit je pense que Monsieur Babinet faisait référence au fait que plusieurs applications ont été proposées, notamment en Allemagne, en Suisse, ils utilisent un autre type d'application. Mais en fait, tout repose.
La différence, c'est que théoriquement, les contacts sont conservés au sein de son propre téléphone, j'ai cru comprendre, dans les applications qui sont mises en place en Allemagne ou en Autriche, alors qu'effectivement, là, ça remonte à un serveur central.
C'est ça. Alors, tout de même, même dans le Stop Covid, les contacts restent au départ dans le téléphone. Mm-hmm. C'est uniquement si la personne est contaminée qu'ils remontent vers le serveur. Mm-hmm. Et c'est en ce sens-là que c'est une solution plus centralisée que ce qui est utilisé en Allemagne et en Autriche, même si au départ, tous les contacts restent locaux au téléphone. Mais d'un point de vue technique, j'ai envie de dire que les deux sont vendus pareil aux GAFAM, au sens où les deux utilisent l'API, utilisent les programmes soit d'Apple, soit de Google, et donc potentiellement pourraient donner des choses à ces acteurs-là. Mais il n'y en a pas, même si donc celle de l'Allemagne et de l'Autriche utilise une fonctionnalité supplémentaire ouverte par Google et Apple, ils ne donnent pas plus d'informations à ces acteurs-là. Donc il y a un débat un petit peu curieux pour nous qui sommes informaticiens là-dessus, puisque finalement les risques vis-à-vis de ces acteurs sont similaires dans les deux applications vis-à-vis de Google et Apple.
Jean-Baptiste Souffron, est-ce que tout compte fait, il n'y a pas aussi quelque chose qui est dans la tête de tous ceux qui critiquent aussi cette application Stop Covid, qui est cette idée que les données de santé sont des données particulières, des données importantes, et que il va y avoir, ou il y a d'ailleurs en cours, des bagarres autour de ces données de santé? On sait que vous êtes avocat, vous participez à ceux qui attaquent devant le Conseil d'État une décision qui s'appelle Health Data Hub, qui est la mise en place justement d'une sorte de centralisation des données de santé et qui d'ailleurs est confiée, je crois, pour ce que sa mise en place, sa mise en œuvre à Microsoft. Est-ce que cette question des données de santé n'est pas justement quelque chose de très important, et c'est peut-être aussi là où le risque pour les libertés publiques semble plus grand à vous?
C'est une question qui est essentielle, c'est celle de l'industrie, de la création d'une industrie numérique européenne qui, pour aujourd'hui, existe surtout sous forme d'espoir.
Mais qui est très poussée par la Commission tout de même ces temps-ci.
Mais ça fait un moment qu'elle est poussée par la Commission. Ça, c'est quelque chose qui traîne beaucoup, mais pour le moment, on n'arrive pas à en faire un sujet de société comme ont pu le faire les Américains ou les Chinois. Et ce qui fait aussi la force de leur succès, c'est que pour eux, ils savent que c'est important et ils le savent vraiment. Ils mettent les moyens. À ce jour, les moyens, pour l'instant, ne sont pas encore là. Mais j'ai envie de dire que c'est un autre sujet, c'est un autre débat. D'une certaine manière, ce dont on est en train de parler, c'est plutôt une espèce de sidération. Je pense que vous êtes familier avec le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc. Mm-hmm. On se retrouve dans une situation de crise, puisque d'ailleurs la crise du Covid, où on a l'impression que, bien, profitant de cette crise, des gens arrivent avec des solutions toutes faites et proposent de les mettre en place en allant le plus vite possible et en essayant de bypasser de passer outre toutes les tous les garde-fous qui sont nécessaires pour y arriver. Comme j'ai dit, moi, sur le principe, je pense qu'aucun des adversaires, la plupart des gens qui se sont exprimés sur le sujet de cette application ne sont pas des technophobes. Mais pas du tout.
On ne vous connaît pas comme tel, ni Antonio Casilli. On ne vous connaît pas comme tel.
Antonio Casilli, il est enseignant en Minitelecom, c'est un des principaux spécialistes d'intelligence artificielle. Non, en revanche, le point commun, c'est que la plupart d'entre eux ont l'impression qu'on est un peu face à un discours magique, qui cherche à faire passer des vessies pour des lanternes et à faire avancer des choses. Finalement, on ne sait pas très bien quoi. D'ailleurs, probablement, je prête aucune mauvaise intention à personne autour de la table, pas ça. Parce que, en fait, on se met dans une situation, on se met dans une espèce de seringue, et on ne se rend pas forcément compte des conséquences futures que peuvent avoir ce genre de décision aujourd'hui. Mais dites-vous, s'il y a 50 ans, si on avait eu l'opportunité de ne pas faire le programme Manhattan, par exemple, de ne pas développer le nucléaire civil, est-ce que c'est des choix sur lesquels il aurait fallu réfléchir à l'époque? Vous voyez ce que je veux dire?
On était en pleine guerre, c'était un peu différent. On était en pleine guerre.
Est-ce qu'il y a des technologies sur lesquelles il faut savoir se dire, non, attendez, cette technologie est dangereuse d'un point de vue de la liberté et de la société.
Lors de la Raudière.
Exactement.
Lors de la Raudière.
Oui, je suis toujours étonnée d'entendre Jean-Baptiste Souffron sur répondre sur des questions de principe comme ça, parce que moi je trouve vraiment que là j'ai les garanties. Ça ne veut pas dire que s'il y a un autre projet dans un autre domaine, je vais dire oui et voilà. On a des garanties. On est dans une crise sanitaire.
Vous êtes d'accord avec le chroniqueur Jérôme Colombin sur France Info qui disait, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est l'appli la plus inoffensive qu'on ait jamais téléchargée sur un téléphone, disait-il. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin.
En fait, dans l'absolu, techniquement, je ne sais pas et je suis très très modeste et très humble par rapport aux autres interlocuteurs autour de dans le studio virtuel, mais l'autre chose qui me semble absolument dingue aussi, c'est que là, c'est une application portée par le gouvernement. Il y a eu des tests qui ont été effectués, il y a la vérification de l'ANSSI, il y a l'avis de la CNIL, on n'a pas changé la loi en matière de liberté individuelle, et dites-vous bien que si on ne la fait pas, eh ben les Français, ils vont utiliser les applications d'Apple et Google. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, j'ai mes garanties d'un point de vue liberté individuelle, vie privée. Le gouvernement s'est engagé à rendre des comptes parce qu'il y a une commission de contrôle, parce qu'il y a eu la publication du code source. Je préfère ça, si vous voulez, plutôt que de laisser finalement les applications de tracing à Apple et Google. J'ai les garanties d'un côté et j'ai une application qui est une application maîtrisée par l'État français, développé par l'INRIA, ben je suis désolée, moi je préfère.
Gilles Babinet, voilà. Je crois que vous connaissez, j'imagine que vous connaissez Paul Dehaene qui est aux États-Unis et qui a travaillé à un site qui s'appelle Briser la chaîne, et il dit on pourrait faire, c'est plus compliqué, mais une application sans tracking ni géolocalisation et mettre la technologie à la portée de tous. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez que on peut faire mieux que ce qu'on a fait?
Oui, écoutez, je suis administrateur de Base Impact, l'association de Paul Dehaene.
Donc vous le connaissez bien.
Un petit peu. Oui, on peut potentiellement faire ce type d'application. Il y a, ceci étant, un certain nombre de faiblesses potentielles si on fait ça. Probablement une efficacité qui sera un petit peu moindre. Donc je suis pour l'instant absolument pas de ceux qui vont dire la structure et le design de l'application telle qu'il existe aujourd'hui est à mettre à la poubelle. Je pense que il y a des avantages dans les applications centralisées et décentralisées. Je pense que Madame Cortier pourra éventuellement.
Il sera trop tard malheureusement parce que nous arrivons à la fin de notre émission.
Voilà, mais si vous voulez, Laure l'a dit, l'a répété. Toutes les garanties sont là, et je veux dire, encore une fois, on doit choisir de, est-ce que on pense que la démocratie est au-dessus ou en dessous des principes technologiques.
Merci.
Si on veut embrasser le 21e siècle, si on veut avoir une chance, finalement, d'être une nation qui s'y épanouit, eh bien, on doit adopter ces technologies, on doit faire en sorte que l'État les adopte, et on doit trouver les principes de régulation qui fassent en sorte qu'elles ne nous martyrisent pas. Moi, je crois que c'est largement possible.
Merci beaucoup.
Et je pense que les positions de principe à cet égard sont un peu dangereuses.
Merci Véronique Cortier. Je rappelle que vous êtes spécialiste des protocoles de sécurité informatique, directrice de recherche au CNRS. Jean-Baptiste Souffron, avocat. Gilles Babinet, qu'on vient d'entendre, vice-président du Conseil national du numérique. Et Laure de la Raudière, donc, qui est elle-même députée Agir de l'Eure-et-Loir et spécialiste des questions numériques. Merci à tous les quatre.
Merci.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Manon Prisset à la technique. Jacques Hubert à la réalisation. Olivier Bétard. Je vous conseille également d'aller voir sur notre site de France Culture les conversations mondiales qui continuent, des intellectuels, des écrivains, des artistes qui réfléchissent à la crise en cours et qui nous donnent des textes. Donc à l'équipe du temps du débat. Hier, le linguiste algérien Lazari Riani qui pense notre place dans l'univers. Et aujourd'hui, la styliste canadienne Marie-Ève Lacavalier, le cavalier qui se demande justement s'il n'y a pas des questions questionnements éthiques et pratiques pour le secteur de la mode après cette crise. Et puis demain, nous parlerons dans le temps du débat de la question de la presse papier.